Bonjour, vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Quentin pour la rediffusion à la réalisation et Erwan pour la première diffusion sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous faisons une rediffusion de Yasmina Kadra, enregistrée le 21 septembre 2008 au Centre culturel algérien. Vous pouvez prendre la carte d'auditeur à Publico, la librairie de la Fédération anarchiste au 145 rue Amelot pour 20 €, ou vous pouvez nous soutenir par un prélèvement de 8 €, soit imprimé sur Internet, sur le site de la radio, vous tapez Radio Libertaire, ou en passant simplement à Publico et en autorisant la demande de prélèvement. Ceci nous aide à faire des émissions libres et sans publicité. Alors donc, ça va être la rediffusion de Yasmina Kadra dans quelques secondes. Yasmina Kadra, Quentin.
La rousse et le frangin à rabat comme un flic à tétron. Thank you.
Vous écoutez Radio Libertaire, l'émission des mots, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au téléphone pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Vous pouvez la contacter au mail demo-une-voix@voila.fr. Vous pouvez aussi la contacter par courrier au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Nous recevons ce mois-ci Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, bonjour.
Bonjour.
Pour vous présenter le plus brièvement possible, je lirai la notice du livre L'écrivain paru chez Pocket en 2001, je crois. Yasmina Kadra, de ce vrai nom Mohamed Moulé Séoul, est née en 1955 dans le Sahara algérien. Il est aujourd'hui connu et salué dans le monde entier. Ses romans, notamment À quoi rêvent les loups, L'écrivain, L'imposture des mots, Kuzinka, sont traduits dans 33 pays. Les Hirondelles de Kaboul et l'Attentat sont les deux premiers volumes d'une trilogie consacrée au dialogue de sourds qui oppose l'Orient et l'Occident et qui s'achève après l'apparition des Sirènes de Bagdad, paru chez Julliard en 2006. L'Attentat a reçu le prix des libraires 2006, le prix Tropique 2006, le Grand Prix de l'électrice côté femme, le prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne, ainsi que le prix des lecteurs du Télégramme et actuellement en cours d'adaptation cinématographique aux États-Unis. Voilà, Yasmina Kadra, une présentation brève. D'abord, la première question, là, on a dû vous la poser 500 fois, mais il faut que je vous la pose. Pourquoi ce nom Yasmina Kadra? Vous pouvez expliquer là, aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, il y en a toujours un qui ne vous connaîtra pas.
Oui, mais ce n'est pas 100 fois, c'est 1 million de fois. Ben, tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais dans l'armée, je ne pouvais pas écrire sous mon vrai nom, donc c'est ma femme qui m'a prêté ses prénoms.
Et dans quelles circonstances vous avez choisi, par exemple, le prénom Yasmina?
C'était dans des circonstances de guerre. Donc, moi, j'étais en opération et ma femme m'avait... Enfin, j'avais appelé ma femme pour lui dire que j'étais toujours de ce monde. Et elle m'a dit, bon, tes amis français demandent ta carte d'identité. C'était un code. Je lui ai dit, bon, tu lui donnes tes noms. Et c'est comme ça qu'elle a envoyé à mon éditeur le nom de Yasmina Kadra.
D'accord. Vous n'avez pas fait d'études littéraires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Oh, je ne sais pas, j'ai fait un cursus normal jusqu'en terminale, j'étais en lettres. Hein.
Et vous n'avez pas eu étudiant de lettres?
Non, mais après le bac, je suis allé faire ingénieur d'exploitation dans les arts de combat. Et puis, je suis sorti de l'académie de Churchill comme officier et j'ai fait toute ma carrière comme officier jusqu'en septembre 2000.
Et pourquoi vous avez quitté l'armée, par exemple?
Bon, j'étais arrivé au bout de ma carrière, c'est-à-dire que j'avais le droit de prétendre à la retraite, ce que je n'ai pas hésité à faire, et c'est comme ça que j'ai voulu me consacrer à la littérature.
D'accord. Et dans vous consacrez, dès très jeune, vous allez à l'armée, à 9 ans.
Et oui,
vous rentrez. C'est pour ça que le chemin était tout tracé pour vous. En fin de compte, c'était un choix familial, presque.
C'était un choix de mon père. Donc c'est lui qui a voulu faire de moi un soldat, mais moi j'étais venu au monde pour écrire. J'ai commencé à écrire très jeune et je dirais même que mon tout premier texte, qui était bien sûr un plagiat, Le Petit Poussé, Le Petit Mohamed, je l'ai écrit à l'âge de 11 ans. Donc c'était dans mes gènes, l'écriture.
Vous avez toujours écrit?
Oui, toujours, depuis toujours. Beaucoup de gens pensent que j'ai commencé à écrire après avoir pris ma retraite, mais c'est faux. Quand j'ai quitté l'armée, j'avais déjà 14 ou 15 livres et j'étais déjà traduit dans 14 ou 12 pays. Donc,
D'accord. Lisez-vous beaucoup, enfin, vous le racontez tout ça, l'enfance. Hein? Moi, je vous repose des questions comme si je ne connaissais pas les réponses. Mais vous racontez tout ça dans le livre L'écrivain.
Dans L'écrivain, oui, l'écrivain, je raconte un peu. Mon enfance de militaire et surtout cette maladie que j'avais à la naissance et qui était la vocation d'écrire.
À partir de quand avez-vous commencé à écrire et quoi de la poésie? Vous le racontez aussi un peu, c'est de la poésie, les premiers textes, la forme qui a jailli.
Bizarrement, mes lectures se faisaient en français, mais mon écriture était toujours en arabe. Donc, j'aimais beaucoup la poésie arabe. Elle me fascinait, elle me transportait dans des univers absolument féeriques qui n'avaient rien à voir avec la caserne dans laquelle moi j'évoluais. Et je rêvais de devenir poète en arabe, comme mes ancêtres, parce que je suis né dans une tribu de poètes. et comme surtout pour essayer de ressembler à mon idole qui était Al-Mutanabbi. Et mes premières tentatives, mes premiers essais, mes premiers vagissements littéraires, c'était surtout de la poésie arabe.
Et cet auteur que vous citez, il est traduit en français ?
Certainement, mais très mal, je suppose. C'est un immense poète. J'ai surpris une fois à Aix, dans une université à Aix, quelqu'un en train de le traduire, un professeur qui se disait spécialiste de Al-Mutanabbi, qui était en train de le traduire. Et dès les premières lignes, je lui ai dit non, c'est pas Al-Mutanabbi que tu es en train de traduire.
Traduisez-les, Yasmina Kadra.
Je n'ai pas sa rhétorique, je ne peux pas.
C'est impossible ? Non, parce que traduire, c'est trahir pour autre chose ?
Non, oui, trahir, oui, dans un sens, oui. Et moi-même, j'ai essayé de traduire mes livres, j'ai pas pu. Je me suis surpris en train d'écrire autre chose, donc c'est pas honnête. Et traduire un poète comme Al-Mutanabbi, moi, je n'ai pas son talent, je n'ai pas sa rhétorique, je n'ai pas...
C'est quoi le choix d'une langue pour vous quand vous avez eu à choisir, ne serait-ce que pour écrire, il faut un ou deux, vous connaissiez deux langues très bien, pourquoi vous êtes engagé vers le français ? C'est la culture, c'est...
Non, c'est peut-être l'affection. C'est par amour que j'ai choisi le français. J'étais dans une école militaire et je n'avais pas le sentiment d'être un enfant ou d'être un garçon ou d'être un être humain. Je n'étais qu'un matricule. Et on était traités tous de la même façon. Il n'y avait pas de bon ou de mauvais. Quand quelqu'un fautait, c'était toute la classe qui était punie. Et à un certain moment, on avait perdu de vue notre... Chacun a perdu de vue sa propre singularité. Et puis, mes professeurs d'arabe ne m'ont jamais encouragé dans la voie que je croyais mienne, à savoir la poésie arabe. Au contraire, c'était l'humiliation, c'était espèce d'imbécile, pourquoi tu fais ça? Comment oses-tu torpiller la langue de X ou de Y? Alors qu'en français, j'étais absolument nul. Et mon professeur de français, qui était français, qui s'appelle Yvon Davis, m'encourageait. Il trouvait que malgré les notes médiocres qu'il m'infligeait, j'avais un peu d'imagination, qu'il me fallait peut-être m'appliquer davantage pour mériter une note plus honorable. Eh bien, c'est comme ça qu'on aimait cet homme qui se dépensait pour nous, hein, en particulier pour moi, qui donnait de son temps pour m'aider, pour m'orienter, pour me conseiller. Ben, j'ai aimé cet homme et on aimait cet homme, j'ai fini par aimer sa langue. C'est pour ne jamais le décevoir que je me suis investi dans cette langue.
Et on ne vous a jamais reproché de ne pas avoir choisi l'arabe ?
Oh, si, ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et chez nous, vous savez, quand on écrit en français, on est un peu traître.
Oui, je comprends bien l'histoire.
Mais moi, j'écris très bien en arabe.
Et vous parliez en quelle langue dans votre enfance ?
Dans mon enfance ou bien à la maison, je parle algérien.
Toujours ?
Toujours.
Jamais un mot de français ?
Si, quelquefois algérien. On peut utiliser de temps en temps des mots français. Mais je préfère parler algérien chez moi.
D'accord. Avez-vous beaucoup voyagé dans votre vie ?
Avant ou après ?
À tout le temps, en général.
Maintenant, je suis traduit dans 35 pays, donc tous mes éditeurs souhaitent me faire connaître à leur public, donc je suis obligé d'aller d'Asie.
Et quelle impression ça vous fait ?
Ben, c'est fantastique, ça me permet d'être très proche de la réalité humaine et d'essayer d'être un bon citoyen du monde.
Tenez-vous un journal littéraire ?
Depuis mars 2001, oui. Je raconte un peu toutes les rencontres que j'ai faites.
Vous ne l'avez jamais publié ?
Ah non, ce n'est pas pour aujourd'hui.
Dans 70 ans ?
Je n'en sais rien, peut-être à titre posthume, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je recense toutes les belles choses et toutes les horreurs que j'ai pu rencontrer sur ce chemin de croix qu'on appelle la littérature.
Et pourquoi vous ne tenez pas à ce qu'il soit publié ? Est-ce qu'il y a trop d'intimité ? Ça implique des gens ?
Ça implique des gens, ça donne... Je suis très vulgaire par endroits. J'ai un regard assez lucide, mais en même temps impartial sur ce qui se passe dans le monde de la littérature. Je raconte les gens qui m'ont aidé, les gens qui ont essayé de défigurer mon image. Donc c'est très troublant.
Et Vous écrivez comment? Sur des carnets? Sur un petit carnet qui bouge? Sur un ordinateur?
J'écris directement sur le computer. Avant, oui. Avant, je pensais que jamais je ne pourrais approcher une machine sans avoir transité par des rames de papier. Mais maintenant, c'est possible. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler sur un computer que sur du papier.
Un style en littérature, cela tient au fond ou à la forme? C'est quoi?
Ça tient au talent et à la sincérité de son auteur. Ça n'a rien à voir avec la forme ni avec le fond. C'est surtout l'authenticité, l'intégrité de l'écrivain qui fait un style.
Mais il y a des gens, vous savez très bien qu'il y a des gens qu'on n'aime pas, qu'on écrit, et qui avaient un style, par exemple. Donc je citais par quelqu'un qui, je pense, tout simplement... Céline écrivait très bien, il avait un style et en même temps c'était quelqu'un de pas bien moralement.
Oui, mais moi quand j'ai lu Céline, j'étais stupéfait. J'avais lu Voyage au bout de la nuit.
Oui, c'est son meilleur livre qu'il a écrit quand il était jeune.
J'avais 20 ou 25 ans. J'étais stupéfait par son style, par sa verve, sa générosité, mais en même temps quelque chose me disait que cet homme était misanthrope, donc on le perçoit très vite. C'est faux dire qu'on ne peut pas connaître un auteur à travers son texte. Pour moi, c'est être à côté de la littérature. Tout est dans le texte. Le texte, c'est la transparence et la nudité absolue de son auteur. Moi, quand je lisais Hemingway, j'étais genre affolé. Je le lisais comme c'est pas possible. Mais en même temps, je me disais, ce bonhomme, j'aimerais pas avoir ce bonhomme comme compagnon. Plus tard... Parce que moi, j'ai évolué dans une école où la radio était interdite, où la télévision était interdite. On avait seulement 2 heures de télé par semaine, c'était les jours de foot, où la presse écrite était interdite. Donc, il n'y avait pas de critique pour nous orienter. On découvrait par nous-mêmes les grands auteurs. Et ce n'est que plus tard que j'avais appris que finalement...
Est-ce que vous aviez accès à tous les livres?
Non, pas tous les livres. Il y avait seulement les livres de la bibliothèque, mais il y avait un peu de tout. Hein.
Est-ce que vous pouviez les commander à un libraire et qui les a?
Non, s'il n'y a pas le tampon de la bibliothèque de l'école sur un livre, il était interdit. Mais on avait tout. On avait, sauf les livres un peu nuisibles.
Comme on dit. Le Marquis de Sade?
Non, pas le Marquis de Sade, mais on avait pratiquement tous les grands auteurs. Hein. Sauf les livres érotiques ou dits à... dangereux pour la moralité.
D'accord. Et quelles furent vos lectures d'enfance? Vous lisez un peu dans votre livre L'écrivain, paru chez Pocket, Yasmina Kadra, vos lectures d'enfance?
Je lisais, j'étais bilingue, je lisais dans les deux langues. Il se trouve que la bibliothèque était beaucoup plus riche d'ouvrages en français qu'en arabe. Ce qui fait que... Et puis on était tellement passionnés, on parlait beaucoup de la littérature qu'on découvrait en français, la littérature américaine, russe, polonaise, espagnole. C'était magnifique. Donc, je lisais beaucoup en français. Et c'est comme ça que j'ai découvert Gogol, qui était devenu mon ami, John Steinbeck, qui est devenu mon idole, Albert Camus, qui est devenu mon maître, Tolstoï, enfin, André Gide, enfin, tout. C'est pas possible. Les auteurs arabes, je les lisais en arabe, mais en même temps, c'était bien de les lire en français. À l'époque, il y avait d'excellentes traductions quand même.
Et c'est quoi la différence entre la langue arabe et la langue française?
Je ne sais pas la différence. Pour moi, la langue arabe, c'est la langue de la poésie, et la langue française, c'est la langue du roman.
Bankers too. get up and learn those rules. With a man and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM and FM, the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag, and the hours jerk. Yeah, well, bye bye. Wave bye bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell ring. Take 1 hour, do y'all fine. Cheese boy girl. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has slapped to attention. Lunar landing of the Dentist Convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land. You know, whoa! Sweat some more, the sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat, but did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat, but did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the mops, a fire at Engels. Came to the checkout at the 7-Eleven. Pops was good, but he had sense. Engels living a necessary pence. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificence. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. It can be true, it can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or Tintin, who's more famous to the billion millions? Who's flash? Vacuum cleaner sucks up Budgie.
Trop tard pour tordre. perdre son mouchoir. Elles aiment les hommes à femmes. Certains curés tombent les dames. Même parfois les nonnes s'enflamment pour d'abominables hommes de plage qui les entraînent à la nage. Amours aquatiques et sauvages, faites la vie d'âmes honnêtes. Catherineettes et nonnettes, runes blondes, minces ou rondes, vous êtes sur la map monde pour prendre plaisir comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard pour mordre son mouchoir.
Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Nous recevons ce mois-ci Yasmina Kadra. Je vous rappelle que le 27 septembre de 12h à 20h au Squat Samplon, 38 rue Gabriel Péri à Ivry-sur-Seine, au métro Mairie d'Ivry, il y a une fête de Radio Libertaire avec de la musique, Moustache et Fred Alpi, des logiciels libres, émissions, Clou Nono et de la nourriture. Donc avec Yasmina Kadra, je propose que maintenant Yasmina Kadra nous avoue quelques questions d'ordre général. Nous parlions de ce que le jour doit à la nuit, paru chez Julliard en 2008, il y a peu. Pourquoi ce titre déjà, Ce que le jour doit à la nuit? C'est pas expliqué dans le livre, ou je l'ai pas remarqué alors.
Ce n'est pas expliqué dans le livre, mais c'est expliqué sur la couverture.
Alors vous pouvez expliquer votre vision à vous, comment vous l'avez entendu
le rêve n'a été possible que grâce au sacrifice des autres, de nos parents, des anciens, et le jour ne brille que grâce à la noirceur des nuits. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui comme confort, nous le devons à d'autres. Donc rien n'a été acquis comme ça facilement. Et le jour que nous sommes en train de rêver aujourd'hui, qui nous éclaire, qui nous fait courir partout, ben ce jour-là, il a été rendu possible grâce à des engagements et à des serments indéfectibles. Des gens sont morts pour nous et c'est tout. Donc c'est un peu le retour à cette nuit coloniale qui a été abyssal par endroits et romantique par d'autres. Et bon, c'est tout. Hein.
D'accord. Il n'y avait pas une expression que vous avez reprise, que vous aviez trouvée quelque part?
Non, c'était moi, ça.
D'accord. Vous avez fait le choix ici, comme dans tous vos livres, de la langue française. Alors, je la repose, je l'avais prévu de vous la poser, je l'ai déjà posée tout à l'heure. Pourquoi vous avez choisi la langue française? Et ça, vous avez déjà répondu. Donc, si vous voulez... Ensuite, le narrateur de ce roman refuse de participer à la guerre qui a lieu. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'implique pas dans la guerre.
Il ne s'implique pas parce qu'il a des amis autour de lui. Il ne voit pas pourquoi et il faut qu'il les considère comme ennemis. Il savait pertinemment que l'histoire allait le bousculer, qu'elle allait choisir pour lui. Donc pourquoi choisir ? Pourquoi ne pas responsabiliser, culpabiliser l'histoire elle-même, les événements ?
C'est un pacifiste.
C'est un pacifiste convaincu, oui.
Il participe parce qu'il est obligé.
Oui.
Donc là, ce n'est pas une participation.
Oui, il le fait parce qu'il estime que le combat de son peuple était juste. Donc, il y contribue, mais sans faire du tort à personne.
Mais il n'a pas vraiment le choix, parce qu'on le menace. C'est sous la menace.
Non, quand il a rejoint, quand il est allé chercher l'argent, quand il a commencé à chercher des médicaments pour les maquiller, personne ne l'avait menacé.
Oui,
on l'avait testé au départ, il aurait pu dire non, et là peut-être on l'aurait menacé, mais personne ne l'avait menacé.
Ah d'accord, moi je l'avais pris comme s'il avait été menacé, donc il a agi sous la force quoi.
Non, pas du tout.
D'accord. Pourquoi le narrateur a-t-il un surnom qui n'appartient pas à sa communauté?
Ben il avait un nom, il s'appelait Younes, et puis... Ça apparaît au moment où... le jour où il quitte sa famille... pour être adopté par son oncle, qui est marié à une catholique, une chrétienne. Et bien sûr, c'était peut-être un lapsus, mais au lieu de l'appeler Younes, elle l'appelait Jonas, parce que dans la mythologie biblique, c'est le nom qui est, ce nom est pratiquement c'est le même, hein, que ce soit pour nous ou pour vous, c'est le même nom, hein, sauf que la prononciation diffère, mais c'est le même destin, c'est la même baleine, c'est le même martyr. Hein.
Puis après, il se produit une scène raciste qui est très humiliante, je crois, pour le narrateur. C'est quand une jeune fille vient, apprenant son vrai prénom, lui rompt avec lui une liaison qui commence à une histoire d'amour.
Oui, mais ce sont des enfants, ils ont 13 ans.
C'est quand même un signe de racisme.
Oui, bien sûr, le racisme, il était fréquent chez nous. Hein. Vous savez, d'ailleurs, la guerre de libération, on a été que l'aboutissement de... Que ça a été biologique finalement, parce que les Algériens étaient chosifiés, étaient sous-traités, considérés comme du bétail, comme des bêtes de somme, alors que c'était des gens qui avaient leur propre culture, qui avaient leur savoir, leur dignité, leur amour propre. Et ce racisme-là qui a duré très longtemps a fini par déboucher sur la guerre de 7 ans. C'est normal, oui, le racisme était là. Et j'en parle dans mon livre.
Oui, bah bien sûr, bien sûr.
Et même il y a un moment où le racisme atteint son paroxysme. Lorsque André dit à Jelloul, les Arabes c'est comme les poulpes, il faut les battre pour les détendre. Moi j'ai mis une année à chercher cette phrase. Pour résumer en deux mots, toute la violence de cette ségrégation.
Ça a été dur de créer ce personnage qui est ignoble, quoi, dans le fond.
Qui ça?
André.
Il n'est pas tellement ignoble.
Hein. Il est humain ignoble, mais il est ignoble.
Il est ordinaire. Il est mauvais avec ses domestiques et tellement attachant avec les autres. C'est ça, c'était comme ça. Les gens n'étaient pas méchants par vocation, ils étaient méchants naturellement. Naturellement, c'est-à-dire ils n'avaient pas à fournir un effort surnaturel ou sur eux-mêmes pour être méchants. C'était la vie qui était ainsi faite. Donc il y avait cette ségrégation, certains se prenaient pour les maîtres et les autres pour des sujets, et ils les traitaient comme ainsi, c'est tout.
Ils le pensaient.
Ils ne le pensaient pas, pour eux c'était quelque chose de machinal. Oui, parce qu'il était riche, parce qu'il était le seigneur. Il perdait de vue l'humanité de son serviteur, de son valet, de son domestique.
Parce que justement, le narrateur, lui, n'oublie pas.
Oui, c'est ça, justement. Mon personnage n'oublie rien du tout. Il n'oublie ni son passé, ni son histoire, alors que c'est un descendant d'une femme, d'une douairière, en quelque sorte. C'est l'arrière-petit-fils d'une douairière arabe, algérienne. Eh bien, il n'a rien oublié de tout ça. Il n'oublie pas non plus lorsqu'il donne sa parole.
Oui.
Oui. Il n'oublie pas ses amis pendant la guerre. Il n'oublie pas tout ce qui a fait la beauté de son enfance.
Ancien commandant, êtes-vous pacifiste aujourd'hui, comme votre narrateur, qui j'estime est pacifiste?
Pourquoi vous dites ancien combattant, commandant? Oui, alors.
Je sais pas.
Oui, mais des gens se nourrissent de clichés, de stéréotypes. Un militaire, c'est d'abord un être humain. L'habit ne fait pas le moine et l'uniforme ne fait pas le soldat. Quand on s'engage dans...
Mais la mission d'un militaire, c'est quand même de tuer les gens.
Non, c'est défendre son pays. C'est ça le problème, c'est défendre son pays. Être les premiers à défendre son pays. Et puis par la suite, il y aura la mobilisation et les journalistes, et les guichetiers et les chefs d'entreprise vont rejoindre les rangs pour défendre leur pays. C'est tout. Moi, je n'ai jamais compris cette étroitesse d'esprit qui fait croire que les gens sont ce qu'ils portent. Non, les gens sont ce qu'il y a sous leurs vêtements. Ils incarnent leur propre vérité. Vous pouvez trouver des soldats qui sont pacifistes, et vous pouvez trouver des militants des droits de l'homme qui sont absolument abjects, absolument monstrueux. Donc ça n'a rien à voir.
D'accord. Non, mais je voulais vous poser la question. Vous savez, vous êtes à Radio Libertaire. Nous sommes entièrement pacifistes. Nous sommes pour une non-existence des armes totales, par exemple. On est naïf, mais on ose le dire.
Ça, c'est mon souhait. Oui, je voudrais que les gens arrêtent les guerres. Oui, mais est-ce possible? Naturellement, c'est pas possible.
Oui, peut-être un jour, faut espérer. Écrivez-vous à la main, à l'ordinateur, au lit, au bureau, au café, d'un jet, en reprenant beaucoup, la nuit? Nous voulons tout savoir, Yasmina Kadra.
J'écris n'importe où. N'importe où.
Sur des carnets
Sur n'importe quoi, sur des feuilles volantes, sur mon billet d'avion, sur ma contravention. Donc, tout est bon pour comment dirais-je, cerner une idée, pour marquer, pour l'empêcher de s'envoler. Mais souvent, j'écris chez moi, dans ma chambre. Je me mets face à un computer et j'écris.
D'accord. Et vous écrivez la nuit, le matin, par exemple?
Ça n'a pas de...
Vous n'avez pas de rituel?
Non, pas du tout. Quand je suis dans un texte, j'y suis jusqu'à la fin. Généralement, je commence à travailler à partir de 8h, 9h du matin. Et quelquefois, je m'arrête à minuit sans rien manger, sauf en picorant par-ci, par-là. Mais j'ai horreur de me lever, par exemple, à 4h ou 3h du matin pour écrire quelque chose. Même si cette idée me rend insomniaque, je préfère rester couché plutôt que de me lever pour l'écrire. Je sais que le lendemain, je ne serai pas tellement convaincu.
D'accord. Mais je vais lire page 190, un extrait. Après la remise du trophée que... reçu des mains de Max-Paul Fouché en personne, la maman du lauréat nous offrit un dîner somptueux à base de poissons frais et de fruits de mer dans un superbe restaurant de la Madrague. Quelle est cette intrusion du réel, la présence de Max-Paul Fouché dans votre roman avec un personnage imaginaire? C'est quoi? Comment vous faites introduire le réel?
Ben, pour rendre plus crédible le récit. C'était l'époque et moi je trouvais que c'était intelligent de faire traverser mon récit par des personnages.
Et Max-Paul Fouché, par exemple, il a été en Algérie?
Bien sûr, oui.
Ah oui, j'ignorais, c'est pour ça la question que je voulais vous poser, j'ignorais ce détail.
Tout le monde l'oublie, mais c'est bien de lui rendre hommage à travers
bien sûr, c'est un très grand homme.
Oui.
Quand on anthologie aussi, de la poésie, c'est merveilleux.
Et Charlot aussi, je lui rends hommage. Et pas que lui, il y a aussi John Steinbeck qui est là, Emmanuel Robles. Et c'était l'époque. Et chaque époque a son écrivain, et c'est pour ça que j'ai voulu faire appel, convoquer ces personnalités.
Qui... Et la part d'autobiographie, comment elle marche chez vous dans un roman?
Non, il n'y a pas de part de... Non, biographie, mon autobiographie, je l'ai...
Écrit dans l'enfance?
Voilà, dans l'écrivain.
L'écrivain, je ne sais pas pourquoi je veux dire l'enfance. Ouais. Je vais faire une autre lecture, page 262, mais vous avez déjà répondu à la question, mais je la repose, puisque je ne savais pas du tout en quelle heure ça arriverait. Christophe en tarabustait plus d'un. S'engager dans l'armée n'aura guère effleuré l'esprit d'un garçon de Rio Salado. Ce n'était pas un univers pour nous. Nous ne parvenons pas à dissocier le choix de Jean-Christophe d'une volonté absurde et insupportable de s'auto-flageller. Dans ses lettres, pas une fois, il n'avait laissé transparaître les frustrations qui l'avaient amené à renoncer à sa liberté, à sa famille, à son village, pour se livrer pieds et poings liés au règlement militaire et au travail de la dépersonnalisation consentante et la soumission. C'est quoi l'armée pour vous aujourd'hui, Yasmina Kadra?
C'est qu'elle a toujours été à travers les âges et les esprits.
Par exemple, moi, pour vous dire qu'il y a une histoire personnelle, Platon, j'ai lu, bon, je ne comprends pas qu'il mette des guerriers dans sa cité idéale.
Oui.
Une cité idéale, pour moi, ça n'a pas de guerrier. Guerrier de l'âme, mais pas guerrier du corps.
Oui, mais vous savez, aucun idéal n'est à l'abri des agressions. Hein.
Oui.
Si vous êtes quelqu'un de bien, automatiquement, vous suscitez de la haine chez les gens qui ne le sont pas. Si vous avez beaucoup de talent, vous suscitez du fiel chez les gens qui n'en ont pas. Si vous êtes quelqu'un de paisible, votre quiétude dérange ceux qui sont nés pour déclencher le chaos partout, pour l'installer partout, le déployer partout. Donc il n'y a pas, moi je ne crois pas qu'il puisse exister un jour une cité idéale absolument assaini et son soldat. L'homme ne sera jamais assez mûr pour comprendre que la violence est sa part d'animalité qu'il faudrait absolument conjurer.
Mais il faut la maîtriser, c'est tout.
On ne pourra jamais le faire. Jamais, jamais, jamais. L'homme est né juste... C'est la mission de l'homme sur cette terre, justement, c'est d'aboutir jusqu'à sa propre destruction. Et il va exceller dans l'art d'exercer la violence Regardez ce qu'il est. Paradoxalement, alors qu'il lutte contre le cancer, qu'il apporte des, qu'il crée des miracles dans des hôpitaux, et il travaille dans des laboratoires pour trouver des médicaments et tout. Et parallèlement à ça, il excelle dans la création d'armes absolument abominables d'une force dévastatrice. Apocalyptique. Oui, c'est ça l'homme. C'est en même temps l'ange et le démon, c'est le bourreau et la victime.
Mais vous ne pensez pas qu'un jour il se passera des choses, peut-être un monde vivable? Vous y croyez pas? Vous êtes pessimiste donc sur la civilisation,
oui,
plutôt?
Oui, bien sûr, la civilisation de l'humanité tend vers la catastrophe. Hein. C'est dans l'imaginaire séculaire, millénaire de l'homme, il y a toujours cette apocalypse qui nous guette quelque part. Et l'apocalypse ne sera bien sûr que le comment dirais-je? Ce sera l'apocalypse. Pour moi, c'est déjà le grand saut de l'homme, ce sera sa plus grande réussite, ce sera son triomphe sur lui-même. Ce sera véritablement son triomphe. Moi, j'ai écrit dans un de mes livres, le bien n'a jamais triomphé du mal, c'est toujours le mal qui finit par jeter l'éponge, lassé par ses propres abus. Et j'y crois, le bien ne peut rien faire contre le mal.
D'accord, c'est un vieux débat, hein.
Oui, c'est un vieux débat.
Quand vous écriviez ce livre...
Je m'excuse un peu parce que c'est le ramadan. J'ai la tête qui est comme une cruche. J'ai du courant d'air dans mon cerveau. Et si j'ai beaucoup de mal à articuler, c'est tout simplement parce que le carême, c'est un peu comme une bonne cuite. Ça apaisit la langue et ça fatigue un peu les mâchoires.
D'accord. Quand vous écriviez ce livre, « Ce que le jour doit la nuit », paru chez Julliard, Yasmina Kadra, vous saviez où vous alliez, où votre plume vous emmenait?
Absolument, oui, parce que c'est une histoire que je porte en moi depuis plus de 20 ans. Donc, que je revoyais souvent dans mon esprit. Et je voulais l'écrire en 2001, dès mon installation en France, via le Mexique. Mais des circonstances ont voulu que je m'attaque à autre chose, que je prouve d'abord que je n'étais pas un salaud, que je n'étais pas un mercenaire ou un espion avec la paranoïa parisianiste que l'on connaît. Maintenant, quand j'ai vu que je suis apprécié un peu partout dans le monde, que j'écris 20 livres, je me suis dit peut-être que je suis assez mûr pour m'attaquer au roman de ma vie. Et c'est pour ça que je l'ai attaqué cette fois-ci.
Mais c'est quoi ce roman de votre vie par rapport aux autres? Qu'est-ce qui diffère dans ce roman-là?
Bon,
on m'a dit, un ami m'a dit, il est différent. Il ne m'a pas expliqué pourquoi, je ne vais pas demander,
c'est
on allait
pas,
vite, on n'aurait pas beaucoup de temps. Il m'a dit, il est différent des autres livres.
Oui, absolument, c'est totalement différent, c'est un tout autre registre. Ça n'a rien à voir avec l'attentat, ni les hirondelles de Kaboul, ni les sirènes de Bagdad, rien à voir avec le terrorisme, c'est l'histoire de la vie. C'est tout, donc je reviens un peu à cette littérature que j'aime et qui permet à... De grands moments de lecture, une évasion saine, une façon de revisiter une époque, son parti pris, son préjugé, son haine et son rancune, voilà. Ouais, je suis vraiment à l'aise dans ce genre de fiction.
Merci Yasmina Kadra. Nous allons mettre un morceau de musique. Musique Arwan.
hani haneye, çay hani haneye, mey hani haneye, baba gönlüm şenlensin. Yarın hakkım divanında, 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 burada söylensin. Kalenin dibinde üç ağaç inti, kalenin dibinde üç ağaç inti. Elinde kelepçe, 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 kolunda zincir. Elinde kelepçe, 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 kolunda zincir. Zinciri çok sallama, kollarım inci. Zinciri çok sallama, kollarım incir. Kalk gidek meyhanehaneye, çayhanehaneye, meyhanehaneye, baba gönlün şenlensin. Yarın hakkın divanında, 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 doğru da söylensin. Kalk gidek meyhanehaneye, çayhanehaneye, meyhanehaneye, baba gönlün şenlensin. Yarın hakkın divanında, 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 doğru da söylensin.
Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Nous recevons ce mois-ci Yasmina Kadra. Après quelques questions de présentation, nous parlons de ce que le jour doit à la nuit. Est-ce que vous voudriez, il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, Yasmina Kadra, mais moi ce que je vous propose, c'est que vous lisiez le début, si vous voulez, les premières lignes, ou même la première page, si vous voulez bien.
Ouais.
Je ne vous ai pas proposé avant. C'est que vous prenez votre voix avec votre texte un petit peu.
Oui, mais mon problème, c'est que je ne sais pas lire. Je suis le roi des lapsus, et surtout avec le ramadan, ça ne va pas être chose aisée. Mais pour vous, je vais essayer de le faire. Et donc, c'est le premier chapitre. Mon roman commence ainsi. Mon père était heureux. Je ne l'en croyais pas capable. Par moments, sa mine délivrée de ses angoisses me troublait. Accroupi sur un amas de pierraille, les bras autour des genoux, il regardait la brise enlacée, la sveltesse des chaumes, se coucher dessus, y fourager avec fébrilité. Les champs de blé ondoyaient comme la crinière de milliers de chevaux galopant à travers la plaine. C'était une vision identique à celle qu'offre la mer quand la houle l'engrosse. Et mon père souriait. Je ne me souviens pas de l'avoir vu sourire. Il n'était pas dans ses habitudes de laisser transparaître sa satisfaction. En avait-il eu vraiment ? Forgé par les épreuves, le regard sans cesse aux abois, sa vie n'était qu'une interminable enfilade de déconvenues. Il se méfiait comme d'une tente de volte-face d'un lendemain déloyal et insaisissable. Je ne lui connaissais pas d'amis. Je continue ?
Oui, allez-y, allez-y.
Nous vivions reclus.
C'est un plaisir d'entendre les écrivains.
Nous vivions reclus sur notre lopin de terre, pareil à des spectres livrés à eux-mêmes, dans le silence sidéral de ceux qui n'avaient pas grand-chose à se dire. Ma mère, à l'ombre de son taudis, ployée sous son chaudron, remuant machinalement un bouillon à base de tubercule aux saveurs discutables, Zahra, ma cadette de 3 ans, oubliée au fond d'une encoignure, si discrète que souvent on ne s'apercevait pas de sa présence, c'est moi. Garçon et malingre et solitaire, à peine éclos que déjà fané, portant mes 10 ans comme autant de fardeaux. Ce n'était pas une vie, on existait, c'est tout. Le fait de se réveiller le matin relevait du miracle. Et la nuit, lorsqu'on s'apprêtait à dormir, on se demandait s'il n'était pas raisonnable de fermer les yeux pour de bon, convaincu d'avoir fait le tour des choses et qu'elles ne valaient pas la peine que l'on s'attarda dessus. Les jours se ressemblaient désespérément. Ils n'apportaient jamais rien, ne faisaient en partant que nous déposséder de nos rares illusions qui pendouillaient au bout de notre nez, semblables aux carottes qui font avancer les baudets. En ces années 1930, la misère et les épidémies décimaient les familles, les cheptels avec une incroyable perversité, contraignant les rescapés à l'exode, sinon à la clochardisation. Nos rares parents ne donnaient plus signe de vie, quant au loch qui se silhouettait au loin. Nous étions certains qu'elle ne faisait que passer un coup de vent. Le sentier qui traînait ses ornières jusqu'à notre gourbet était en passe de s'effacer. Mon père n'en avait cure. Il aimait être seul, arc-bouté contre sa charrue, les lèvres blanches d'écume. Parfois, je le confondais avec quelque divinité réinventant son monde. Et je restais des heures entières à l'observer, fasciné par sa robustesse et son acharnement.
Merci Yasmina Kadra. Merci. Comme ça, les auditeurs auront au moins le début du livre, ils auront envie de lire la suite. Alors, je vais passer à une autre question, mais celle-là, bon, si vous voulez, vous pouvez répondre longuement, parce qu'en fin de compte, c'est la question du livre. L'histoire du livre est l'histoire d'un amour impossible. Pourquoi l'amour n'éclate-t-il pas et ne rend-il pas les deux héros du livre heureux? Pourquoi vous ne faites pas éclater, plutôt, on pourrait dire? C'est vous qui choisissez.
Vous savez, quand l'irréparable est commis, on se demande toujours pourquoi. Pourquoi j'ai été à cet endroit, à ce moment précis? Pourquoi n'avais-je pas essayé d'emprunter un autre chemin? Pourquoi avais-je dit ceci et cela? Mais généralement, le pourquoi ne change rien. C'est une histoire d'amour qui aurait pu être une belle histoire. Mais le hasard a voulu que, ou les traditions ancestrales ont voulu qu'un homme, lorsqu'il donne sa parole, il ne peut pas revenir dessus. Et mon personnage qui avait contracté un petit... qui avait une petite histoire d'amour, une relation sexuelle avec la maman de la fille qu'il va aimer, avait promis à cette maman de ne pas tourner autour de sa fille. Et c'est comme ça qu'il n'a jamais eu le courage de passer outre la parole donnée pour vivre pleinement de son bonheur.
Mais elle en meurt seule, elle.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, les époques ont changé, mais dans les années 30, 40, 50, bien avant, l'homme était l'incarnation de son propre honneur. Il lui était interdit de s'abaisser, il lui était interdit de ne pas tenir ses promesses. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on résilie même les serments qu'on a contractés le matin.
Et pourquoi ça tient à quoi, ça? C'est que la morale change plutôt ou...
La morale est en perdition et toutes les valeurs d'autrefois sont devenues obsolètes. Ce sont des chippies que tout le monde rejette, repousse. Et vous savez, maintenant, quand quelqu'un essaye d'apporter un peu de sagesse dans notre quotidien, on le repousse en le traitant de moralisateur. Et moralisateur est devenu quelque chose de tellement vilain, de tellement ordurier, de tellement ringard.
J'ai encore rien compris. Le plus beau, c'est d'avoir la plus belle morale possible.
Oui, mais
le
problème, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup de morale sont les premiers à dire qu'on ne nous fait pas la leçon, alors qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre.
Et donc, pour une parole donnée, toute sa vie s'est engagée, quoi. Il a tenu sa parole envers cette femme dont il ne connaissait pas grand-chose, en plus.
Et écoutez, moi-même, j'avais juré en 1986... suite à une campagne contre les écrivains francophones en Algérie qui a été enclenchée par des arabisans, des arabophones. J'avais écrit au chef d'orchestre de cette chasse aux sorcières une lettre à laquelle j'avais adjoint une nouvelle en arabe pour lui prouver que j'étais capable d'écrire mieux que lui en arabe. Et j'avais juré de ne plus jamais écrire en arabe, juste pour protester contre cette campagne-là.
Et vous avez réécrit en arabe, bien sûr.
Et j'ai jamais écrit, à part la poésie que je fais exclusivement pour mon épouse, mais j'écrivais des nouvelles à l'époque. Je voulais même m'essayer au roman. Mais je n'ai plus jamais écrit de nouvelles ou de romans en arabe.
Oui.
Alors que je peux très bien le faire et peut-être avec plus d'aisance.
Pourquoi faut-il s'interdire une langue, Yasmina Kadra, si on la connaît, bien sûr?
Mais je ne sais pas, c'est ça la folie humaine, mais quelquefois La folie, quand elle nous teste, quand elle teste nos certitudes et nos convictions, nous protège de nous-mêmes. Si on cédait à une telle parole, on peut céder à toutes les tentations.
Il y a aussi des paroles qu'on ne cède pas.
Oui, voilà.
Je dis, c'est sûr, il y a des paroles qu'on ne cède pas.
Oui.
Il y en a qu'on cède.
Peut-être, certainement, pour sauver, oui.
Non, simplement pour vivre.
Pour vivre, oui, je peux me passer de certaines choses. Quand je vois que je peux vivre sans, je peux ne pas céder.
Parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre.
Absolument. Moi, je suis un bédouin.
Bien sûr, il faut à manger, à boire, à toi. Enfin, moi, je dis à toi pour moi.
Ouais,
j'ai toujours eu à toi, je n'ai pas dormi souvent la belle étoile.
Ouais.
Je n'ai pas eu ce plaisir-là. Mais il ne faut pas grand-chose.
Oui. Le drame de l'humanité, c'est que nous avons toujours cherché ailleurs ce qui est à portée de nos mains. Et ce qui est à portée de nos mains, c'est d'abord les gens que nous aimons, qui sont juste là, les petites choses, les choses toutes simples de la vie. Et ça ne suffit pas à notre bonheur. Et c'est en allant les chercher ailleurs que l'on s'éloigne véritablement du bonheur. Aujourd'hui, l'humanité, on voit dans les villes tous ces gens stressés en train de courir à droite et à gauche, et cette délocalisation massive, cette frénésie à vouloir toujours rentabiliser vite et beaucoup. C'est une folie. Les gens ne se rendent même pas compte du temps qu'il fait dehors, le temps qui passe très vite.
Il y avait un beau livre qui s'appelait Travailler 2 heures par jour dans les années 70 qui est sorti en France.
Oui.
Ça montrait simplement qu'on pouvait travailler 2 heures et prendre le temps de vivre, quoi.
Absolument, oui.
En ayant une consommation minimum.
Oui. Oui. Les Bédouins ont ça dans le sang. Dans le livre.
Vous étiez de quelle région, Bédouin ? C'était de quel Bédouin vous étiez originaire ?
J'étais dans le Sahara algérien, dans la région, dans la Saoura, du côté de Béchar, anciennement appelé Colomb Béchar. Je suis né à Khnatsa, c'est une bourgade séculaire qui a exactement 8 siècles d'existence.
Et vous y retournez des fois ?
Non, je ne suis plus retourné là-bas depuis 20 ans. Ouais. Mais il me tarde de retrouver mes ruelles d'autrefois, mais le cimetière de mes grands-parents, les tombes de ceux qui ne sont plus là, mais qui continuent de venir me rendre visite dans mes sommeils et dans mes textes.
À la fin du livre, on a diverses sensations. Quelle impression vouliez-vous donner avec cette fin, sans la dévoiler ? C'était quoi votre idée ? Vous savez que la fin, c'est très important, la fin d'un livre. C'est un peu, on dit ça bêtement, mais moi, je vous parle de morale, c'est un peu la morale du livre. C'est la morale du livre.
C'est le pardon.
Ouvert, c'est ouvert.
Oui, mais le pardon, je voulais que les gens... Parce que le pardon, c'est ce qu'il y a de plus noble chez nous. Quand on pardonne, c'est que quelque part, on est des gens, des seigneurs.
On peut tout pardonner
Quand on a... Où ? Pas toujours, pas tout. Mais on peut essayer. On peut essayer, si on n'arrive pas, on ne pardonne pas. Mais on peut essayer de pardonner.
Tout est possible, en fait. Tout est toujours possible.
Possible, je ne sais pas, mais tout est permis. On peut se permettre d'essayer de pardonner.
C'est ce qu'elle fait, la jeune fille, à la fin du livre, avec cette lettre.
Mais tout le monde, j'espère que tout le monde a fait ça. J'espère que tout le monde a fait ça. Et ce livre n'aurait aucune importance humaine s'il n'arrivait pas à réconcilier les pieds noirs avec leur vraie patrie, qui est l'Algérie. C'est le texte d'un Algérien écrit à tous les Algériens, autochtones, pieds noirs,
juifs. Oui, parce qu'il y a toutes les communautés dans votre livre. Il y avait tout ça avant. Il n'y avait jamais eu de problème. Tout le monde vivait ensemble. Et ce qu'il aurait fallu, c'est enlever le colonialisme, quoi.
Oui. C'était l'égoïsme. Dans le texte, c'est dit, quand le colon parle de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'il a fait pour l'Algérie, le verger, les rails, les gares, les villes, enfin tout ce qu'ils ont construit, oui, c'était vrai. Mais malheureusement, c'était pas partagé. Il y avait des gens qui vivaient merveilleusement bien et des autochtones qui étaient réduits à rien.
État d'esclave, comme on voit ce personnage.
Non, pas esclave, c'était vraiment une sous-humanité oubliée, marginalisée, qui était en train de croupir dans des taudis, écrasés de misère. Non, c'était terrible quand même. C'était une misère abyssale. abyssal.
Et vous, parlant en dehors du narrateur, en dehors de ce livre-là, comment vous l'avez vécu, cette guerre d'Algérie, personnellement? Vous étiez où et comment ça s'est passé?
Jeune, je suis né en janvier 1955, donc pratiquement une quarantaine de jours, 1er novembre, 70 jours après le déclenchement de la guerre.
Vous avez des souvenirs?
Non, j'ai peut-être le souvenir d'un coup de crosse que j'ai reçu quand ma mère se chamaillait avec un soldat. Et ce soldat, bon, je me rappelle, il était un peu terrifié parce que c'était un coup de crosse accidentel, mais qui m'a défoncé le crâne. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai mon crâne qui est défoncé à ce niveau-là. Il est défoncé. Hein. On voit bien qu'il y a un trou dans mon crâne. Et c'est tout, c'est vague, très vague. Je me rappelle, j'étais venu chercher mon père qui était officier de l'ALN. Je pensais qu'il était rentré à la maison. Et je vois très bien cette porte que l'on retenait avec des bouts de ficelle et avec une grosse pierre qui était complètement défoncée. Et des soldats qui cherchaient un peu partout. Ils avaient marché sur mon frère, qui avait à l'époque peut-être 2 ans. Ils ne l'avaient pas vu, il était complètement perdu dans les couvertures. Et puis ma mère avait sauté au cou d'un soldat, elle a commencé à le griffer. Et en voulant la repousser avec son fusil, il m'a frappé avec sa crosse et m'a défoncé le crâne. C'est tout ça, ouais. C'est le seul souvenir que j'ai. Sinon, peut-être l'image évanescente de mon grand-père, oui.
T'as vu une photographie? Comme une photographie, l'image des cendres de votre grand-père?
Non, c'est pas du tout une photographie. C'est vraiment quelque chose de très mouvant. Si on dirait qu'une image sur un rideau.
Une impression?
Oui, sur un rideau qui secoue une brise quelque part. Donc, oui, mais je me souviens aussi. De mon père, un soldat.
Bah dans ce livre-là, la place du père, elle est très importante.
Pardon ?
Dans ce livre-là, la place du père, elle est très importante.
Oui, parce que la place du père a toujours été importante à cette époque-là. Aujourd'hui encore, chez nous, la place du père est toujours importante. Mais à l'époque, dans les années, dans l'Algérie coloniale, on avait la même culture finalement. On avait pas la même culture, mais on avait les mêmes mentalités. Pieds noirs et autochtones avaient les mêmes mentalités. Le respect religieux des parents, la vénération des parents et le droit d'aînesse qui était aussi valable pour les Français que les pieds noirs que pour nous. On s'était nourris. Oui, par endroit, on s'était nourris les uns des autres. Oui, et c'est pour ça que la place du père était importante. Aujourd'hui, enfin, un père, tout le monde s'en fout, hein.
Il y a même des gens qui font sans père.
Oui.
Oui, on peut tout faire. Ensuite, je vais vous poser... On sort de la lecture de ce livre avec un sentiment de désastre, personnel et historique. Est-ce voulu ou est-ce une lecture?
Mais je n'ai pas très bien compris.
Sensation de désastre après la lecture.
Ah bon?
Oui. D'une tristesse infinie.
Le gâchis, pas le désastre.
Bah oui.
Le gâchis, oui, bien sûr.
Un amour qui n'est pas réalisé,
oui,
c'est quelque chose dans une vie.
Oui, mais quand c'est pas...
Quand une vie
avec un amour. C'est pas tellement le désastre, c'est le gâchis. C'est
et la guerre, et la guerre, et la guerre, bien la sûr, guerre, oui. Qui n'aurait jamais dû avoir lieu.
Oui, parce que nous avons toujours raté les rendez-vous les plus importants de notre existence, à une bretelle de notre vie. Et ce livre va certainement réveiller chez chacun de nous... un remords refoulé parce que il était une fois une possibilité d'être heureux qu'on n'a pas su saisir.
Ouais.
Et la preuve, ce livre, Ce que les jours doivent à la nuit, est accueilli avec le même enthousiasme au Canada, qui ne connaît rien de l'Algérie coloniale, en Suisse, en Belgique, c'est le même enthousiasme. Et jamais je n'ai été aussi bien accueilli au Canada, pourtant là-bas quand même, je suis un petit peu lu avec l'attentat, les sirènes de Bagdad, les sirènes de Kaboul, mais le sirène de Bagdad, il est vraiment très 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 bien accueilli. Ça, c'est ce qui prouve que ce livre parle non pas seulement aux Algériens, mais à tous les êtres humains.
Oui, je crois qu'il est universel comme tous les grands livres, quoi. Baudelaire, quand on lit Baudelaire, on ne demande pas la nationalité du lecteur.
Oui,
c'est un homme.
Moi, je reçois des mails. d'un peu partout et j'ai le sentiment d'être un peu le citoyen du monde.
Oui, il faut représenter toujours la liberté. Ouais. Jamais oublier le plus faible, le plus...
Et nous sommes des êtres humains, finalement. C'est vrai que nos cultures diffèrent, mais nous, notre âme est la même, notre émotion...
La France et l'Algérie ont toujours été liées.
Ouais.
On a une de l'histoire, quoi, simplement. On est, c'est le peuple un des plus proches de nous, quoi.
Oui.
Ensuite, ben voilà, moi j'ai fait mon petit tour des questions. Vous avez écouté l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Nous avons reçu ce mois-ci Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, je vous salue et je vous dis au revoir.
Au revoir. Et merci. Mes amitiés à ceux qui vous écoutent. Et je leur demande de vous soutenir, parce que vous le méritez véritablement.
D'accord, je vous remercie Yasmina Kadra. Le mois prochain, nous recevrons Patrick Declercq. Ça devrait être en direct si tout se passe bien. Vous avez écouté l'émission Démon, une voix de Thierry. Vous pouvez contacter directement l'émission au 01 43 71 89 40 au mail demo-une-voix@voila.fr ou au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement, où vous pouvez prendre la carte d'auditeur pour 20 euros qui nous aide à faire des émissions libres et le bon souscription par internet pour nous aider à vivre. Merci.
Bonjour, vous écoutez Radio Libertaire, l'émission des mots. Une voix a eu lieu avec Yasmina Kadra comme invitée ce mois-ci, mais j'aimerais faire un appel de solidarité avec tous les sans-papiers pour leur régularisation immédiate, et c'est tout. Et je rappelle que vous pouvez prendre la carte d'auditeur au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, pour 20 € pour aider la radio à vivre. Musique Erwan, et tout à l'heure l'émission de Michel Polizzi.
Amstramgram, acédic, expédidam, qui va perdre ses droits, c'est toi.
Oh non, pas moi, oh!
En vent serré, l'ennemi nous assaille, autour de notre drapeau, regroupons-nous. Que nous apporte la mort menaçante, pour l'acédic, soyons prêts à souffrir. Mais le musicien.
La section de Nîmes, s'il vous plaît, devant la préfecture, merci.
Un seul étendard. Un seul mot d'ordre, travail
et justesse, on suit les paroles,
suivons vous le rythme paroles. Sur un tympan d'acier. Aux frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les intermittents.
Vous suivez derrière, merci.
Un seul mot d'ordre,
suivez, oui, suivez derrière.
Je veux des congés spectacles défraiment. Les producteurs voteraient dans la richesse.
Et tout le monde chante, merci.
Les artistes affamés, ceux qui sont morts pour nos grandes idées, n'ont pas en vain combattu et chanté. Contre les bourgeois et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris, nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les intermittents. Un seul mot d'ordre, feuilles roses et vignettes, fiches de paix, congés, spectacle, défraiement, défraiement.
Merci, c'est super.
Une tasse à thé, un sucrier, deux jambes croisées, les femmes, un sac à main, un trois quarts d'un, diront de Guerlain, les femmes, tout pour la peau, tout en croco de bas en haut, les femmes, cheveux défaits, le lit est fait, et toi terre fait, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. C'est des cabas toujours en retard, c'est des matelas sur le dollar, les femmes, les femmes. C'est des câlins à l'œil vison, c'est des chrétiens qui bouffent du lion, les femmes, c'est des carreaux devant le malheur, c'est des ciseaux qui coupent à cœur, les femmes, on dira tout ce que l'on voudra pour en voir la boue, faut ça, faut ça. Deux bouts de chiffon, plus la façon, une collection, les femmes, un rouge baiser pour effacer l'amant lassé, les femmes, tout pour la joie, tout vice-versa, de haut en bas, les femmes, un tronc quoi donc pour faire le pont en toute saison, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. C'est des bas de soie sur l'illusion, c'est du baba sous du nylon, les femmes, c'est des travers qui vont tout droit, c'est un envers qui vaut l'endroit, les femmes, c'est des râteaux sur tes copecs, c'est des corbeaux qui ferment le bec, les femmes, c'est dur à dire et à chanter, faut se les farcir et la fermer. Carita, on te fera ça pour bien moins que ça, les femmes, va au lido, c'est rigolo, on te fera un blot, les femmes, j'ai lu dans elle qu'on peut être belle sans être pucelle, les femmes, système débrouille, pas vu je t'embrouille, pourvu que ça douille, les femmes, les femmes, les femmes, c'est un trottoir où va la vie, te dire bonsoir quand t'as des louis, les femmes, c'est un pastis qu'on boit jamais, quand c'est gratis, il faut te méfier. Les femmes, c'est peut-être des grues, mettez le paquet, ou des sangsues, mettez pecté. Les femmes, c'est dur à dire et à chanter, faut se les farcir et les aimer.
Radio Libertaire.
Eh ben, Radio Libertaire, j'allais le dire, c'est les grands esprits se rencontrent. Bon, bah, du coup, comme Thierry Clerc-Victor et Démo Une Voix ont fini un petit peu tôt. Oh, ben, en fait, il est 16h58, donc on est dans les temps. Le mélange commence sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité de la Fédération Anarchiste. Michel Polizzi avec vous jusqu'à 18h30, et puis après. Des heures de musique. On commence avec Couche-Tille. par Ashirvad, deux musiciens anglais très indianisés, Mathura Das, Dharen Sangita.
place.